Mesdames, messieurs, bonjour à tous. Alors, qui concerne le loup et la louve, et clairement, le loup est depuis longtemps l'animal féroce par excellence. Il était craint dans l'Antiquité, on l'a pourchassé, on l'a détruit pendant des siècles. En France, il existait même une charge spécifique de grands louvetiers pour organiser la chasse au loup. Les histoires qui mettent en scène ce combat entre la société et la bête sont innombrables. Et il a toujours existé des prières destinées à protéger les troupeaux. Dans le domaine indo-européen, par exemple, qui a été si bien étudié par Georges Dumézil, qui compile quantité de légendes qui sont extrêmement vieilles, bien sûr, qui remontent à l'origine, finalement, des indo-européens. Il y a, par exemple, les légendes ossètes. Les légendes ossètes. Ossètes, c'est un peuple du Caucase méridional d'origine iranienne, étudié donc par Dumézil. Et là, on trouve une forme de prière où l'esprit du petit bétail fait un don au jeune héros Soslan. Et le texte que rapporte Dumézil est le suivant. « Pour que le loup gris te vole moins de brebis, Nart Soslan, je te donnerai des formules. Prononce-les quand les loups se lanceront sur tes pâturages. » Donc voilà les formules, les prières à faire, à dire pour se garder du loup. Alors si bien que d'emblée une relation s'instaure, la relation qui est celle du loup et de l'agneau. Alors cette relation, elle est bien sûr extrêmement pertinente et percutante, elle est vraiment partout, suscitée par l'apparition de l'élevage ovin, si bien qu'on peut imaginer que cette relation s'instaure dès l'époque néolithique, dès l'origine finalement de l'élevage ovin. Quoi qu'il en soit, effectivement, le bétail, toujours menacé par des prédateurs naturels, et d'ailleurs, remarquez-le, défendu par le descendant domestique de ces prédateurs, c'est-à-dire le chien. Le chien, on consacrera la prochaine conférence au chien. Le chien découle du loup. Tous les chiens, tous, sans exception, viennent du loup. Le loup menace le bétail. Le chien protège le bétail. Bon, alors aussi, dans le christianisme, le loup est l'image du démon qui attaque les fidèles. Donc les fidèles, dans le christianisme, ce sont justement les brebis, les ouailles, que défend le bon pasteur. Et le bon pasteur est accompagné de ses chiens, et les chiens en question peuvent être, par exemple, les dominicains, dominicanis, donc les chiens du Seigneur. Voilà, alors donc effectivement, c'est un imaginaire qui couvre des millénaires et des millénaires et qui est bien inscrit dans le christianisme. Alors le loup, avec le lion, le tigre, le jaguar, qui sont des félins, bien sûr, représentent le type de la bête sauvage dévorante. Ça veut dire quoi? Qu'il porte le symbolisme de la gueule et des dents carnassières. Voilà le symbole, en fait. Le loup se réduit à ça, en fait. Les dents, les crocs. Je ne dis pas, il y a aussi les griffes. Mais ce sont les dents du loup en particulier, en tant qu'instrument de sa violence, qui deviennent la partie de son corps qui contient tous les autres caractères du loup, et notamment la férocité, la sauvagerie. Bon. Donc voilà, crocs, griffes, gueules, dents, c'est le symbole qui ressort le plus. D'où la coutume de suspendre une dent de loup au cou des chevaux pour les rendre infatigables. Et ainsi, on a quelque chose ici de l'ordre de la défense apotropaïque, c'est-à-dire qu'on va se servir du mal pour combattre le mal. Les armes du loup symbolisent finalement les armes du chrétien contre le mal. Ça, c'est Élien qui le dit. Élien fait partie des paléochrétiens. C'est un historien, zoologiste, orateur romain de langue grecque et vraisemblablement chrétien. Il est mort en 235 de notre ère. Et c'est Élien qui dit déjà que les armes du loup symbolisent les armes du chrétien contre le mal. Le mal contre le mal. Donc, dimension apotropaïque, c'est inévitable. La dent de loup le protège. Mais ce prédateur a en propre une réputation mi-construite sur des faits qui sont observés, mi-fantasmatique. Et c'est ça aussi qui en fait un animal tout à fait à part. Et on a beaucoup de mal d'ailleurs à retrancher de l'esprit des gens encore aujourd'hui cette part fantasmée du loup. Hein. A priori, si donc on en croit les zoologistes, bah, le loup... Je ne veux pas dire qu'il est inoffensif, mais enfin, il est relativement inoffensif vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de l'humain. Alors oui, donc il y a cette part mi-fantasmatique, mi-construite, donc mi-vraie, mi-fantasmée, bon, qui fait que le loup est un animal à part. Il y a tout un imaginaire suscité par la crainte. On a peur du loup, mais remarquez une chose. Ce qui peut-être effraie le plus chez le loup, c'est son regard, le regard du loup. Le loup, on l'observe dans l'ombre, et le regard du loup, les yeux du loup dans la nuit, c'est quelque chose d'effrayant, de très effrayant. Car l'animal est nocturne, hein, bien sûr. Bon, il est doué de vertus surnaturelles, dès lors effectivement que ses yeux brillent dans l'ombre ou dans la nuit, ce qui va nous permettre de développer tout à l'heure cette partie effectivement sur le regard du loup, les yeux du loup. Les yeux du loup, c'est quelque chose d'extrêmement important, et qui se retourne peut-être aussi sur lui-même, qui retourne la dimension qu'en donnent les dents, les crocs, les griffes. Ça, effectivement, c'est la férocité, la sauvagerie du loup. On verra qu'avec le regard du loup, les yeux du loup, c'est peut-être un peu différent, ou du moins à nuancer. Alors souvent, les loups vivent, se déplacent et tuent en bande. Ce sont des groupes, en fait, hein, si bien que leur pouvoir de nuire dépasse celui de la bête sauvage isolée. Le loup, je le redis, vit, se déplace et tue en bande. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les loups composent une société. Alors bien sûr, c'est une société primitive, ou dite primitive, ou vue par nous, humains, qui pensons que notre société est très au-dessus, donc elle est vue comme primitive, oui, primitive, bon. Bon, mais une société quand même, et ça c'est important, avec sa sexualité et avec ses vertus familiales. À ce propos, ces deux points, c'est-à-dire une société qui a une sexualité, qui a des vertus familiales, se rapportent à la louve, se rapportent à la femelle en particulier. D'où le symbolisme sexuel, par exemple la prostituée en italien se dit la lupa, la lupa. La prostituée en italien, ou la qualité maternelle, bah, c'est la louve. La louve a des vertus familiales et surtout maternelles, hein, donc quand elle nourrit Rémus et Romulus, par exemple. Alors ce n'est que récemment, avec l'éthologie, c'est-à-dire cette science qui étudie le comportement des animaux, que les loups sont parés de qualités sociales, on devrait dire de vraies qualités sociales, qui sont de vraies qualités sociales, des qualités aussi de solidarité. Le loup est un animal très solidaire de son prochain. Quand il est blessé, par exemple, ou blessé mortellement, par un ours, on imagine effectivement un ours qui donne un coup de patte au loup, dans la dispute qui les oppose autour d'une carcasse, par exemple, bah le loup ne l'emporte pas. Le loup est blessé mortellement, mais donc son compagnon, sa compagne, bah restera auprès du loup blessé. Certaines civilisations ont aussi retenu la personnalité tragique du loup solitaire. Alors, il est en bande, c'est une société primitive, mais il y a quand même cette image très forte du loup solitaire, parfois redoutable, souvent traqué, capable d'une mort héroïque, sans plainte. Il va mourir, effectivement, mais sans plainte. Mort tragique, donc. Bon, mais le loup s'inscrit avant tout dans le symbolisme de l'agressivité. C'est ça qui va l'emporter très largement. Et ça, dès Homère. Donc Homère, par exemple, l'exprime très bien plusieurs fois. Ça lui permet, cette image du loup, donc ce loup féroce par excellence, d'exprimer la brutalité d'un combat. Ainsi, la mort d'Éléphénor. Éléphénor est tué par Agénor. Mais voici le texte de Homère, c'est tiré de l'Iliade, au chant 4. La vie alors le quitte, et sur son corps s'engage entre Argiens et Troyens une rude bataille. On croirait voir des loups. L'un sur l'autre, ils se ruent, chaque homme abat son homme. L'image est extrêmement forte. Bon. Mais la comparaison qui est courante dans les civilisations où on craint les hordes de loups, bon. La comparaison entre ces carnassiers et des guerriers humains joue sur tous les registres, c'est-à-dire qu'en latin, le loup symbolise l'agressivité humaine, d'où la formule ou l'expression ou le proverbe même, qui est extrêmement célèbre, homo homini lupus. D'ailleurs, Georges Rouault en a laissé un tableau qui est extrêmement dur, qui est en tout cas sans concession, un tableau qui est assez épouvantable, hein, comme vous le voyez ici, et qui traduit tout à fait ce que pense aussi, entre autres choses, cet artiste d'une très grande spiritualité et même d'une religiosité, qui était Rouault. Il pensait aussi ça de l'homme. Hein. L'homme est un loup pour l'homme. Vraisemblablement, la formule vient de Plot. Hein, Plot, c'est un très très grand poète latin qui a vécu entre 254 avant notre ère et 184 avant notre ère. Donc c'est sans doute sa formule, elle est latine, par conséquent, et vous avez ici la référence, l'origine, disons, hein, de la formule qui a été construite, homo homini lupus, quand tu ne connais pas l'homme qui te fait face, tu ne le considères pas comme un homme, mais comme un loup pour toi. Alors, l'homme qualifié de loup est féroce, il est impitoyable. Mais il peut s'avérer aussi courageux, il peut s'avérer infatigable. Donc il y a quand même ces deux aspects qui nuancent quand même cette approche de férocité, de sauvagerie du loup. Il y a une dimension qui est, on l'a dit, l'héroïsme, le courage, et d'autres vertus de ce type-là. Alors dans le conte européen, le loup peut jouer un rôle tout à fait comparable à celui de l'ogre. Alors, il y a effectivement des images comme ça qui sont tout à fait frappantes, comme ici de Lucas Cranard l'Ancien, une gravure sur bois tout à fait fascinante, tout à fait impressionnante même, hein, qui va bien sûr nous orienter, nous diriger vers le lycanthrope, c'est-à-dire le loup-garou, en fait. Hein. Et donc ici, l'image est tout à fait terrible. Donc on voit effectivement une maison avec une maman, donc à la porte de sa maison, donc un enfant qui est donc à côté d'elle, et d'autres enfants qui manifestement jouaient donc devant la maison, qui sont effrayés par ce qui vient de se passer. Ce qui vient de se passer, c'est que tout simplement un homme loup, vient d'emporter un de ses enfants, donc il l'emporte dans sa tanière est couverte de cadavres, des cadavres d'enfants essentiellement, on voit de tout, des crânes, des squelettes, enfin c'est assez épouvantable, et bien sûr Lucas Cranard l'Ancien fait en sorte de montrer ce personnage tel un loup, presque en phase de métamorphose en loup. Bon. Alors oui, ça dans les contes, c'est finalement ça hein, que l'on va trouver, c'est-à-dire de l'image féroce, sauvage du loup, donc une image agressive, une image qui est renforcée par les dents, les crocs, les griffes, etc. Donc il s'opère effectivement un glissement vers l'humain, et donc on obtient cette image très très forte du loup-garou, du lycanthrope. On va y revenir. Bon, donc on parlait du conte européen. Bon, effectivement, là, c'est frappant. Le loup est comme l'ogre. C'est l'ogre qui vient dévorer les enfants. Dans Le Petit Chaperon Rouge, le loup dévore la grand-mère et l'enfant, c'est-à-dire qu'il dévore l'ancien et le nouveau. Ça, c'est un aspect intéressant sur lequel on pourra rebondir en abordant une dimension qui sera peut-être plus cosmique, en fait, hein, l'ancien et le nouveau. Et c'est vrai que de nombreuses civilisations ont établi un lien étroit entre l'appétit du loup, sa morsure et le temps destructeur. Le loup dévore, le loup avale. Mais en fait, on s'imagine que c'est aussi le temps qui est détruit par l'action du loup dévoreur, du loup qui mord, etc. Alors le loup, ben, c'est la mort dévorante, justement. Mais c'est aussi la survenue des ténèbres. Donc le temps passe, le temps s'écoule, et donc l'hiver arrive, la nuit vient, et c'est, semble-t-il, bah, le domaine du loup. Alors tout ceci, bah, effectivement, nous conduit au lycanthrope, donc ainsi d'une image de la férocité de l'animal, qui n'est qu'un animal. On passe à la férocité de l'homme, et on la traduit comme ça, cette férocité, par une sorte de métamorphose épouvantable. C'est ce qu'on appelle donc le lycanthrope, l'homme sauvage, l'homme sauvage. Hein. Donc l'homme sauvage, alors le lycanthrope c'est le loup-garou en fait, hein. Mais c'est aussi et surtout, et je pense qu'il vaut mieux l'aborder comme ça, l'homme sauvage. Hein. Alors bon, donc il est ce paysan gardien des bêtes de la forêt que rencontre un personnage de Chrétien de Troyes. Donc c'est-à-dire que c'est très vieux cette image du loup-garou, ça vient de très très loin semble-t-il. Donc Chrétien de Troyes, vous le trouverez, ça ce passage que je vais lire dans Yvain ou le chevalier au lion, donc ça fait partie de la littérature courtoise romane donc qui nous appartient en propre. Donc voici le passage, donc un personnage de Chrétien de Troyes rencontre ce paysan gardien des bêtes de la forêt, et voici le texte. Il avait la tête plus grosse qu'un ronsin ou qu'une autre bête, les cheveux ébouriffés et le front pelé, large de presque 2 empons, les oreilles velues et grandes comme celles d'un éléphant, les sourcils énormes, la face plate, des yeux de chouette, un nez de chat, une bouche fendue comme celle du loup, ses dents, des dents de sanglier, acérées et rousses, une barbe rousse, des moustaches entortillées, le menton accolé à la poitrine, l'échine voûtée et bossue. Donc on a ici la description d'un gardien de la forêt, des bêtes de la forêt, qui est mi-humain, mi-bête, mi-animal. Enfin, c'est vraiment la description de l'homme sauvage. C'est déjà, bien sûr, le lycanthrope. Hein. En fait, le lycanthrope, on va le montrer, vient de très très loin hein, dans le temps. Alors, en effet, la métamorphose de l'homme au loup s'effectue lors de malédictions pour marquer que tel homme est exclu de l'humanité. L'homme qui est exclu de l'humanité se métamorphose en loup. C'est ce qui est arrivé à Lycaon. Lycaon. Alors Lycaon a donné à manger à Zeus la chair d'un enfant. Ovide le raconte dans ses métamorphoses. On peut rappeler l'histoire parce qu'elle est quand même tout à fait saisissante. Et vous pouvez trouver hein, le récit en question chez d'autres auteurs, plus anciens encore que Ovide. Enfin, je pense que le texte d'Ovide est le plus saisissant. Alors, on peut raconter l'histoire. Hein. Je ne lis pas le texte d'Ovide, mais par contre, je peux évoquer l'histoire. Parce que la terre a une triste réputation, Zeus quitte l'Olympe déguisé en un simple mortel. Ce qu'il veut, Zeus, c'est juger par lui-même cette humanité, qui d'ailleurs est une des premières humanités. Il y a plusieurs races qui se sont succédées dans le temps. Bon, là, c'est une des premières. Alors, il se rend en Arcadie. Il se rend en Arcadie, royaume d'un tyran qui s'appelle Lycaon, dont vous avez le nom sur la projection. L'arrivée du dieu est bien sûr annoncée, d'un dieu est annoncé, du dieu peut-être pas Zeus précisément, mais un oracle annonce aux Arcadiens l'arrivée donc d'un dieu. Alors le peuple de son côté se confond en prière, ce qui agace Lycaon, le roi ne supporte pas cela, le roi préfère tourner en dérision toutes ses dévotions. Ayant invité le prétendu dieu à sa table, c'est-à-dire ce Zeus qui s'est déguisé en simple mortel, il se fait un devoir, Lycaon, de prouver qu'il n'est qu'un mortel. Il égorge l'un de ses jeunes esclaves, il cuit ses membres et les sert comme festin à son hôte. Zeus, étant aperçu de la perfidie de Lycaon, parce que personne ne peut tromper Zeus, hein, personne ne peut tromper Zeus, hein, il détruit son palais. Le roi s'enfuit dans la campagne, bientôt on l'entend, il pousse des hurlements, Zeus l'a métamorphosé en loup. Si, étant loup, Lycaon, maintenant, s'abstient de manger de la chair humaine pendant 9 ans, il redeviendra humain. Mais c'est long, 9 ans. Très très long. Et donc ça ne se produit pas. Donc il ne peut pas ne pas manger de la chair humaine, Lycaon. Donc il mange de la chair humaine et Jupiter convoque l'assemblée des dieux et annonce aux dieux du Panthéon, à tous les dieux finalement, son intention de renouveler l'humanité. Zeus déclenche un déluge qui va balayer de la surface de la Terre cette race impie à laquelle appartient Lycaon, et une autre race va naître, Deucalion et Pyrrha. Je crois que j'en avais parlé dans une conférence précédente, Deucalion et Pyrrha, qui vont jeter des cailloux par-dessus leur épaule, et de là naîtra donc une nouvelle race d'hommes et de femmes. Alors bon, voilà effectivement donc l'histoire là-dessus. C'est très loin, c'est très lointain comme histoire, cette métamorphose de l'homme en loup. Là, vous avez bon une image du 17e, intéressante parce que bon, elle est quand même assez fameuse. Si on se rapproche, on voit bien donc la métamorphose de Lycaon, le repas qu'il lui a préparé, que Jupiter bien sûr refuse, hein, puisque c'est finalement donc de la chair humaine. Et sinon, on peut trouver des références qui sont beaucoup plus anciennes. Voici ici un vase grec des années 460 avant notre ère, et qui effectivement présente l'homme loup. D'ailleurs, il y a une variante peut-être à donner ou à préciser. Une variante qui va indiquer que Lycaon a fondé la cité de Lycosoura. Lycosoura se trouve sur le Lycée, la montagne, la colline du Lycée, enfin la montagne du Lycée. Et là, il institue le culte de Zeus Lycaios. Et les concours des Lycaïa, qui avaient lieu donc sur le Lycée, dans cette cité de Lycosoura, censée avoir été fondée par Lycaon. Donc, du même coup, des cérémonies étaient organisées, au cours desquelles les fidèles se revêtaient de peaux de loup. Et cette image que vous avez sous les yeux, je ne sais pas si vous la voyez bien, cette image, on peut se rapprocher, mais enfin on voit bien effectivement qu'il y a un homme, un grec, qui est déguisé en loup, qui porte une peau de loup, finalement. Ça pourrait très bien correspondre à ces cérémonies en l'honneur de Zeus Lycaios sur le Lycée, etc. Et peut-être même que se déguisant comme cela, ça c'est la force du masque, si vous voulez, qui fait qu'on devient autre, sans doute se croyait-il devenu réellement loup. C'est pas impossible, hein, ce qui fêtait comme ça ce Zeus Lycaios. Et alors, en Arcadie, pour revenir en Arcadie, puisqu'après tout, Lycaon est le roi d'Arcadie, il semble qu'en Arcadie, on ait sacrifié des humains en l'honneur de Zeus Lycéen, donc le Zeus du Lycée, donc de la montagne. Bon. Et les assistants au rite communiaient en mangeant les entrailles de la victime donc humaine, et la légende affirme qu'il devenait loup pendant 8 ans, avant de revenir à la forme humaine, bien sûr, s'il s'abstenait de tout cannibalisme. Il était métamorphosé en loup, 8 ans sans manger de la viande humaine, il retrouvait leur forme humaine. Donc là, il y a beaucoup de points communs avec l'histoire de Lycaon que j'ai racontée. À ce propos, on peut même citer Platon concernant ce cannibalisme. Pour Platon, la métamorphose en loup est le destin normal de l'homme qui, fort de son pouvoir, se souille de crimes de sang à l'encontre de ses propres concitoyens. Pour être plus précis, voici ce qu'il écrit, enfin vous l'avez sur la projection, c'est tiré de la République, quand on a goûté à des entrailles humaines, coupées en morceaux et mêlées à celles d'autres victimes sacrées, on est immanquablement changé en loup. Donc c'est une croyance vive, hein. C'est pour ça que j'ai dit à l'instant, il semble qu'en Arcadie, on ait sacrifié des humains en l'honneur de Zeus Lycéen, et que ceux qui pratiquaient ce sacrifice mangeaient les entrailles de la victime. On ne sait pas. Hein, donc où est la part du mythe, de la légende et de la réalité, en fait. Hein. Voilà pour Donc cette référence, alors là-dessus, oui, je vous disais, bon, c'est quelque chose de très vieux, en fait, hein, cette histoire du lycanthrope, de cette métamorphose de l'homme au loup. Et puis surtout, ça ne disparaît pas, ça ne disparaîtra jamais. Il suffit de voir, effectivement, dans le cinéma actuel, où les vampires ou les loups-garous occupent une place quand même assez importante dans le cinéma fantastique ou le cinéma d'horreur. Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, le loup-garou était considéré comme réel. C'est une réalité. Et c'est encore vrai jusqu'aux premières décennies du XVIIe siècle. Ça veut dire quoi, précisément? Que les inquisiteurs, en particulier, prétendaient que les sorciers avaient la faculté de se transformer en loup pour aller au sabbat. Au sabbat des sorciers, au sabbat des sorcières. Ils le croyaient, ils en étaient sûrs. Les inquisiteurs sont en quelque sorte le bras armé de l'Église. Ils pratiquent des exorcismes, ils visent les sorciers et les sorcières. Arrivés au XVIe et XVIIe siècle, ces derniers sont brûlés vifs. Et vous savez qu'il y a comme ça des choses épouvantables qui se sont produites, surtout au XVIIe siècle. Des villages entiers qui ont brûlé parce que les inquisiteurs considéraient les gens comme des sorciers ou des sorcières. Enfin, épouvantables. Ces mêmes inquisiteurs croyaient au loup-garou. Réellement. Croyance dont on trouve un écho, par exemple, dans les contes et récits populaires de toutes les provinces de France. Il suffirait de lire les Évangiles du Diable de Claude Seignol. Une référence, les Évangiles du Diable de Claude Seignol, hein, qui raconte ou rapporte ces récits populaires de cette époque-là, 16e et encore début 17e. Quoi qu'il en soit, les loups étaient abondants. Par exemple, dans le nord de l'Europe ou en montagne, et en particulier l'hiver, comprenez ce que ça veut dire, en contrepoint démoniaque aux fêtes chrétiennes. Dans l'imaginaire des chrétiens, les loups qui se manifestent, hein, et qui se manifestent notamment l'hiver, au mois de décembre, si vous voulez, hein, c'est le contrepoint, mais le contrepoint démoniaque aux fêtes chrétiennes. D'où cette croyance des inquisiteurs que réellement, les sorciers peuvent se métamorphoser en en loup. Alors d'ailleurs, vous avez quand même des choses qui sont saisissantes. Là, par exemple, un arrêt. Et on lit, il date de 1574, l'arrêt. Hein. Donc on lit ceci. Là, je pense que vous le lirez bien. Donc arrêt mémorable de la cour de Parlement de Dole, donné à l'encontre de Gilles Garnier, lyonnais, pour avoir en forme de loup-garou, dévoré plusieurs enfants et commis autre crime, enrichi d'aucun point recueilli de divers auteurs pour éclaircir la matière de telle transformation. On y croit, c'est un arrêt extrêmement sérieux, c'est pas un montage. 1574, on croit réellement en l'existence des loups-garous. À droite, vous avez la condamnation à mort, un peu plus tard, en 1589, à Cologne, de Peter Stumb, loup-garou. On le croit loup-garou, donc il est condamné, bien sûr. Il est décapité après avoir subi des tortures, mais épouvantables. Donc on le voit, effectivement, ici, attaché sur la roue. Donc on voit comment, effectivement, on va le supplicier pour, au bout du compte, lui couper la tête à droite. J'agrandis pour bien voir le détail. Voilà, on le voit mieux. Comment la tête saute après avoir subi des supplices, tout simplement parce qu'on croit que c'est un loup-garou. Alors, oui, donc là, c'est quand même assez frappant. Et d'ailleurs, à ce propos, dans l'encyclopédie de Diderot, le chevalier de Jaucourt rapporte cet événement de 1574 qui est indiqué par l'arrêt que vous avez à gauche. Il rapporte ceci, qu'on a condamné donc au bûcher en 1574 un homme qui, et là je reprends l'encyclopédie de Diderot, qui, s'étant obligé par serment de ne plus servir que le diable, avait été changé en loup-garou. Et bien sûr, Diderot estime à propos de cette idée extravagante, c'est-à-dire s'étant obligé par serment de ne plus servir que le diable avait été changé en loup, donc il précise, Diderot, que nous devrions à jamais bénir ces siècles éclairés où nous vivons, quand il ne nous procurerait d'autre bien que de nous guérir de l'existence des loups-garous, des esprits, des lamis, des larves, des lilithes, des lémures, des spectres, des génies, des démons, des fées, des revenants, des lutins et autres fantômes nocturnes, si propres à troubler notre âme, à l'inquiéter, à l'accabler de craintes et de frayeurs. Donc ça, c'est tiré effectivement de l'article « Loup-garou, histoire des superstitions » dans l'encyclopédie de Diderot. Donc bien sûr, Diderot ne supporte pas ces histoires et espère que ça disparaîtra de l'imaginaire des gens. Bah, heureusement que non, ça n'a pas disparu parce que ça entretient justement l'imaginaire des gens. Mais enfin, qu'on en arrive à ces extrémités, peut-être pas quand même, hein. Là c'est vraiment une extrémité. Enfin, il faut savoir, hein, donc c'est jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, on a réellement cru à l'existence des loups-garous. Après, bon, grâce, oui, sans doute, au siècle des Lumières, on change de position. Alors voilà, donc, un peu pour présenter ce loup. Là-dessus, ajoutons que la prédation fait du loup l'animal de Mars, donc le dieu romain de la guerre, d'abord confondu avec l'image même du dieu. Mars est effectivement un dieu loup. Le loup, s'il est l'attribut du dieu Mars, c'est aussi sa victime favorite. Là aussi, il y a deux aspects comme ça qui se répondent. Hein. C'est un équilibre qu'on obtient en fait. Hein. Donc Mars est un dieu loup, mais c'est un tueur de loups aussi. Et ça, on va l'expliquer, mais pas avec Mars, parce que Mars n'est pas une divinité qui est passionnante. Par contre, Apollon, on peut l'expliquer, ça, ce point, ce double aspect, vous voyez, cette ambivalence avec Apollon. Apollon lycien. Il y a un Zeus du lycée, un Zeus lycéen ou lycien, et il y a un Apollon aussi, hein, lycien. Donc on va l'expliquer dans un instant avec Apollon lycien. Si il y a un Apollon lycien, c'est que cet Apollon est un Apollon loup, comme Mars est un dieu loup. Hein. Bon, je vais y revenir. Mais comme on est effectivement sur le domaine de la guerre, le loup se rapporte à la guerre, oui, il se rapporte au dieu Mars. Il est, on l'a dit, l'animal de la prédation. Et alors, on témoigne, par exemple, la très très riche mythologie scandinave. La mythologie scandinave met en scène, justement, des guerriers loups qui se métamorphosent en loups. Alors, on les appelle berserkers, vous trouvez aussi berserkir. Les guerriers berserkirs de la mythologie scandinave, mais aussitôt on va préciser, attention, ils ont une réalité historique, c'est-à-dire qu'il y avait dans les populations germaniques de l'Antiquité, il y avait effectivement des groupes comme ça de guerriers qui vivaient entre eux, en communauté, une sorte de confrérie, dans la forêt, notamment dans la forêt. Ils vivaient comme des sauvages et se métamorphosaient ou se déguisaient en loup, portaient du moins une peau de loup quand ils partaient à la guerre. Ils faisaient très peur, ces gens. Très très peur, mais ça a réellement existé, ça. Hein. Donc, non seulement les berserkers sont mentionnés dans les sagas mythologiques, mais dans les documents historiques, et ça dès l'Antiquité, effectivement, les Romains, par exemple, les Romains qui avaient très très peur de s'enfoncer dans la forêt germanique, hein, sous l'Antiquité, ben, ont peur de ça, parce que les Romains sont superstitieux, ils ont des croyances, eux aussi. Ils y croient tout ça, les Romains. Donc, ils ont très très peur de s'enfoncer dans la forêt germanique pour lutter contre ces guerriers germains. Alors, dans les sagas, ils étaient censés prendre pour compagne des femmes louves. Donc, on peut quand même imaginer une communauté avec quelques femmes. Bon, enfin voilà, hein, c'est dans la forêt. Ils vivent comme des sauvages. Donc, portant des chemises en peau de loup, comme ça qu'on peut les décrire, enfin qu'on les décrit dans les sagas. Ils partaient à l'assaut en poussant des cris de bêtes et des hurlements de loups. Leurs adversaires, par exemple les Romains, se croyaient ainsi en face de guerriers mi-hommes, mi-bêtes. Toujours cette image de la métamorphose, enfin du lycanthrope en fait. Hein. Donc ça couvre effectivement plusieurs civilisations et ça s'inscrit dans le domaine de la guerre. Quand on parle des sagas, on parle de l'Edda. L'Edda poétique, hein. L'Edda poétique, c'est
un auteur du XIIIe siècle, tout à fait fantastique, Snorri Sturluson, qui l'a rédigé. Donc comme ça, il va donc sauver, mettre par écrit les vieilles légendes scandinaves, donc germaniques. Et si on connaît si bien la mythologie germanique, c'est en grande partie grâce à l'Edda de Snorri Sturluson. Bon, alors d'après lui, dans ses sagas, les berserkers allaient au combat sans cotte de maille, enragés qu'ils étaient comme des chiens ou des loups, en mordant leurs boucliers. Donc il faut les imaginer comme ça, mordant leurs boucliers, forts comme des ours ou des taureaux. Ils tuaient et ni le feu ni le fer n'avaient pris sur eux. Donc il y a une part de fantastique qui est énorme, bien sûr, mais enfin ils devaient être terrifiants sur un champ de bataille. Ils entraient dans une fureur guerrière lors des combats. Et puis ça porte des noms, ça, des noms scandinaves très, très précis, la fureur guerrière. Donc de quoi s'agit-il? Une sorte de frénésie sacrée, et ces guerriers étaient des combattants d'élite, on faisait appel à eux quand effectivement il fallait combattre des armées importantes, à commencer par les armées des Romains. Bon. Leur extase, on parle de frénésie, fureur guerrière, donc c'est une extase en fait, et ils arrivent à un niveau extatique. Bon. Ben, ça pouvait être dû à la consommation de psychotropes, ou alors peut-être de rituels chamaniques, des rituels chamaniques qui les mettaient dans un état second, quasi hypnotique, si vous voulez, hein. Ou alors ils étaient drogués, simplement, et puis ça, ben, ça rappelle que les Celtes, ben, c'était pas mieux, hein. Les Celtes, ils avaient leur potion magique, sans doute produite à partir de la manitumouche, donc autrement dit quelque chose de très toxique qui les rendait à moitié fous sur le champ de bataille. C'est ça la frénésie sacrée, donc la fureur guerrière. Donc quoi qu'il en soit, bon, on peut imaginer que cette consommation de psychotropes, cet état dans lequel ils se trouvaient, décuplait leurs forces, les rendait insensibles à la douleur. Ni le feu, ni le fer, nous dit Snorri Sturluson, les atteignait. Quoi qu'il en soit, voilà. Donc les guerriers berserkirs pourraient avoir marqué les populations de l'époque, sous l'Antiquité, encore peut-être un peu au Moyen-Âge, et contribuer à répandre la légende des lycanthropes. Bien sûr que le lycanthrope, l'homme loup, l'homme sauvage, donc c'est, ça a quelque chose à voir avec les berserkers. Voilà, alors là-dessus, on va justement revenir sur Apollon Lycien, qui, on l'a dit, comme Mars est un tueur de loups, et son attribut, c'est le loup, Apollon, en tout cas l'Apollon Lycien, quand on lui donne cette épithète, dans ce cas, effectivement, c'est un dieu loup. Oui, mais Apollon, c'est le dieu de la lumière. C'est le dieu lumineux par excellence. Bon, alors c'est ça qui va nous intéresser. Je l'avais préparé tout à l'heure. Les yeux du loup. Là, je pense qu'on a suffisamment exploité les dents. Les dents, les crocs, les griffes, la férocité, l'agressivité qui se retourne sur l'humain, finalement, qui devient le loup pour l'homme. Voyons maintenant un autre aspect. Alors, c'est un animal nocturne, on l'a dit, le loup. Et le loup, par conséquent, agit par le regard, les yeux du loup, les yeux du loup. Alors, il y a un nom du loup qui est Loukos, je vous l'ai mis en italique sur la projection, et il y en a un autre, celui du lynx, Lynx, qui se ressemble. Et s'il se ressemble, c'est pas sans, c'est pas sans raison, en fait, hein, sur un plan strictement linguistique. Le second, c'est-à-dire le nom du lynx, Lynx, est apparenté à Leucos, hein, qui signifie blanc, brillant, blanc, brillant. Et comme il y a un lien avec Loukos, bah, du même coup, ça fait du loup un animal, voilà, qui est l'animal de la nuit, et qui est l'animal lumineux aussi, du même coup. Hein. Donc ce mot, loukous, loup, remonte peut-être, c'est ce que disent certains linguistes, au remplacement d'un mot tabou. Il devait y avoir un mot tabou pour le loup, entre parenthèses. Par exemple, pour prendre un autre exemple pour illustrer ce point, mot tabou, prenez l'ours et prenez maintenant le russe. Il n'y a pas de mot pour dire l'ours en russe. Il n'y a pas de mot. Hein, j'ai cherché bien, effectivement, il n'y a pas de mot pour dire Donc, il y a des substituts, mais il n'y a pas de mot pour dire ours en russe. Hein. Alors bon, donc là, ici, c'est un peu le même principe. Loukos, bah, ça remonte au remplacement d'un mot tabou, comme il en existe beaucoup, pour désigner justement des animaux mordants, cruels. L'ours, bah, c'est pour les Russes. Mais par exemple, ça peut être aussi la belette. Hein, la belette. Donc il y a aussi des jeux comme ça de remplacement. Bon, alors le loup. Le loup est donc souvent un symbole lumineux. C'est un symbole lumineux, c'est un symbole astral, mais sur ce plan, symbole astral, symbole lumineux, comme il recoupe un peu et même un peu beaucoup le chien, alors je ne vais pas trop développer ce côté, on le retrouvera avec le chien, symbole astral donc. Quoi qu'il en soit, ce qui est le plus frappant, c'est en Grèce qu'il ait existé un Apollon lycéen ou lycien. Comme vous voulez, vous l'écrivez comme vous voulez, en tout cas ça renvoie bien sûr à ce lycée que j'ai évoqué tout à l'heure à propos de Lycaon, etc. Donc c'est la même racine, bien sûr, ça nous renvoie à Loukos, donc le loup, la lumière aussi, etc. Donc il a existé un Apollon lycéen ou lycéen. Donc là vous avez, pour bien le voir, je vais donc m'approcher, donc là c'est une sculpture qui est récente, mais enfin elle est absolument superbe, vous allez comprendre pourquoi d'ailleurs. Donc vous avez un Apollon qui est debout, il fait un geste de son bras droit, il s'apprête à tirer une flèche de son carquois, son arc est dans sa main gauche, et remarquez ce qui est à ses pieds, on s'approche aussitôt, et je pense que vous arrivez à voir se dessiner le loup. Un loup qui est complètement retourné, les pattes en l'air, si vous voulez, la tête couchée au niveau des pieds d'Apollon, la lyre d'Apollon est derrière les pattes du loup. Voilà. Donc vous arrivez peut-être à voir tous ces détails. Et donc c'est une représentation très intéressante qui a toujours existé en fait. Hein. Donc Apollon, tueur de loup. Bon. Apollon, tueur de loup, comme il existe, Apollon sauroctone, l'Apollon tueur de lézard, tueur de serpent, tueur du python, le python de Delphes, par exemple. Bon, dans le lycée, on trouve l'Apollon tueur de loup. Donc c'est l'Apollon lycien ou lycéen, comme vous voulez. Bon. Alors, lors de ces retraites, parce qu'il faut comprendre effectivement cette référence au loup, la référence ou le rapprochement Apollon et le loup, lors de ces retraites régulières au pays des Hyperboréens, les Grecs croient en un paradis nordique. C'est comme ça. Ils croyaient effectivement que le paradis était au nord. C'était le pays des Hyperboréens. Bon. Et ce pays, c'est le pays de Phébus. De Phébus, autrement dit, du soleil, le soleil personnifié, autrement dit, d'Apollon. Bon. Alors, lors de ses retraites dans son pays, finalement, le pays des Hyperboréens, Apollon rencontre sur son chemin les animaux familiers de ces contrées, c'est-à-dire les cygnes et les loups. Voilà pourquoi ce dieu Apollon, dieu de la lumière bien sûr, est associé au loup. Apollon est même fils de Zeus et de Leto. On va y revenir dans un instant. Leto qui s'est métamorphosé en louve. Donc ainsi, ça fait d'Apollon le fils ou l'enfant de la louve. Leto s'est métamorphosé en louve. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure, quoi qu'il en soit. Donc Apollon est fils de Zeus et de Leto. Zeus, c'est le ciel par lequel vient la lumière. Leto, c'est la nuit. Le soleil, c'est Apollon. Apollon naît donc de la nuit à l'aurore. Et après sa naissance, sa mère Leto s'est transformée en louve. Et c'est pourquoi Apollon porte parfois l'épithète de Lycogénès. Apollon Lycogénès, c'est l'enfant de la louve. De plus, quand on ne donne pas pour origine à cette épithète lycien, lycéen, une origine qui est en rapport avec la lumière. C'est-à-dire qu'on peut bien sûr rapprocher lycéen, lycien, de louqué, la lumière. Bon. Qui renvoie donc à Loukos, le loup. Si on ne donne pas pour origine à cette épithète le nom d'un ennemi d'Apollon, qui serait dans ce cas Lycos, que le dieu a vaincu. Alors, dans ce cas, Lycien signifie très clairement tueur de loups. De même qu'il existe un Apollon Sorocton, tueur de serpents ou de lézards, donc il existe l'Apollon Lycien, tueur de loups. Attention, tout est possible, hein. C'est-à-dire, vous pouvez aussi rattacher Lycien à la lumière. Hein. Bon. Alors l'épithète tueuse de loup, maintenant, tueuse de loup, a été très rarement attribuée à Artémis. Artémis est la sœur d'Apollon. Mais en tant que chasseresse, en sa qualité de chasseresse, bien sûr qu'elle aura elle aussi l'épithète. Mais c'est bien moins rencontré que Apollon. Apollon est le tueur de loups au même titre que le tueur de lézards, et sa sœur Artémis est aussi une tueuse de loups. Bon, le loup d'Apollon se rapporte à l'épidémie, car il faut effectivement comprendre ça. Il est lié intimement au loup. Ce loup, c'est donc l'animal de la nuit et c'est aussi la lumière. Or, Apollon, c'est effectivement le dieu de la lumière. Mais méfiez-vous, c'est aussi un dieu archer, un dieu qui est terrible, un dieu extrêmement dangereux, un dieu que les Grecs ont toujours associé à l'épidémie, toujours, et en particulier à l'épidémie de peste. Et donc, le loup se rapporte à l'épidémie, comme en témoigne d'ailleurs Philostrate. C'est Philostrate qui va nous expliquer ça, Philostrate de Lemnos, qui est un auteur du IIIe siècle de notre ère. Dans ses héroïques, il a ce texte que je lis, Apollon, par ses loups, nous prévient. Il nous prévient qu'une épidémie s'abattra sur la région. Les loups s'attaquent à ceux qui doivent mourir en premier de la maladie, les esclaves et les bêtes. Apollon se montre bienveillant à notre égard, puisqu'il nous accorde le temps de nous protéger. Prions donc Apollon Lycien, protecteur des fugitifs, pour qu'il tue ses bêtes avec ses flèches et détourne la maladie sur les chèvres. Grec, prenons soin de nous-mêmes qui veulent se protéger de la peste, se met à diète et s'active. Et donc là, il ne faut pas se tromper, le loup est synonyme d'épidémie, de peste en fait. Hein. Le loup, c'est la peste. Hein. Ce dieu, c'est le dieu qui envoie la peste, mais c'est aussi le dieu qui guérit de la peste. C'est le sens de pharmakos. Pharmakos, c'est ce qui envoie la maladie, ce qui rend malade et ce qui guérit en même temps. Ça, c'est très très présent dans l'esprit des Grecs. C'est même incontournable dans l'esprit des Grecs. Hein, cette notion ambivalente de pharmakos. Ben, c'est ce qu'est exactement Apollon, l'Apollon lycien, donc est ambivalent. Voilà pour cet aspect. Puisque donc on insiste sur le regard, signalons que ça n'a jamais tout à fait disparu, puisque le légendaire chrétien, médiéval donc, précise que le loup est jeteur de sorts par le regard. Donc il faut éviter de regarder dans les yeux le loup. Il a le mauvais œil hein, dans le légendaire médiéval chrétien, le loup. L'un des effets du regard du loup, c'est la perte de la parole, qui le dit Pline, Virgile, Isidore de Séville, qui a laissé une encyclopédie qui est la compilation de ce que disaient Pline et Virgile. Bon, et comme ça, ça passe au Moyen-Âge. Donc, c'est-à-dire, plus précisément, si l'homme voit le loup le premier, la bête est vaincue. Vous avez d'ailleurs une interprétation chrétienne à tirer de cela. Ça veut dire que le diable est dominé par la vigilance. Le diable est vigilant, le loup se garde bien que l'homme le voit le premier. Et cette fable survit à la Renaissance, certes très atténuée, mais enfin elle survit, au moins dans l'usage familier du latin, et c'est Érasme de Rotterdam, qui finalement la traduit très bien dans les adages qu'il publie en 1536, où il écrit ceci. Les loups l'ont vu les premiers, se dit d'un enroué et de qui a soudain perdu la voix. Alors, il faut éviter effectivement que le loup voit l'homme le premier, sinon l'homme perdra sa voix. Et il rajoute, Érasme, on le dira plus plaisamment, de ceux qui, par crainte de quelqu'un, se taisent alors qu'ils ont en d'autres circonstances la langue intrépide, Virgile, dans l'églogue intitulé Moeris, la voix aussi à Moeris fait maintenant défaut, les loups ont les premiers vu Moeris. Donc si effectivement le loup voit l'homme en premier, l'homme perd sa voix. Ça c'est aussi quelque chose qui vient de très très loin et ça nous relie au regard. C'est le regard du loup. C'est quelque chose effectivement qui fait peur, qui a toujours fait peur, hein, qui est entouré de superstitions. Alors si l'œil du loup peut être symbole de lumière et de malédiction, par le regard on l'a compris, c'est sa gueule et ses dents qui l'emportent, ça aussi on l'a dit, les deux thèmes de la lumière et des ténèbres se combinent comme cela, par le regard et les dents finalement. Le loup et sa gueule fait disparaître par avalement, et il y a justement à ce propos un très beau mythe, très très ancien, donc qui le traduit très bien, qui traduit très bien cet aspect-là. Donc le loup qui fait disparaître par avalement, les deux thèmes de la lumière et des ténèbres, hein, qui vont se combiner. Alors c'est un mythe qui est tiré des quatre Védas. Alors, quatre Védas, on les signale souvent dans ces conférences parce que c'est une des racines du domaine et de l'imaginaire indo-européen. Ce sont des textes très très anciens qui ont 4000, 4500, peut-être 5000 ans. Donc là, c'est plus précisément le Rig Veda qu'on peut citer. Le Rig Veda fait disparaître l'oiseau de lumière. C'est un mythe. On nous parle d'un oiseau de lumière. On ne sait même pas ce que c'est que cet oiseau de lumière. Peut-être la caille. Peut-être pas, on ne sait pas, enfin qu'importe. Bon. Donc le Rig Veda fait disparaître cet oiseau de lumière dans la gueule du loup. Et ça représente la phase nocturne. Donc ça veut dire que l'oiseau de lumière, bah, c'est vraisemblablement le soleil. Le loup, la gueule du loup qui avale, bah, c'est la nuit qui l'a emporté. L'aurore, nous dit le Rig Veda, délivre l'oiseau de lumière. Bon, alors ça, c'est un mythe très très ancien, c'est tiré du Rig Veda, imaginez. Et ce thème de la disparition cosmique des astres se retrouve dans les mythes scandinaves. Mais après tout, c'est le même domaine, c'est le domaine indo-européen. Hein, germanique, scandinave, c'est pareil, c'est donc indo-européen. Et alors, dans ces mythes scandinaves, il y a effectivement un loup surnaturel, un loup qui est extrêmement impressionnant, c'est Fenrir, le loup Fenrir. Alors, on peut effectivement dire deux mots. Fenrir, c'est un monstre, hein, qui est toujours en lutte avec les dieux. Alors, pour bien effectivement en parler de ce loup, Fenrir, voilà, vous l'avez ici, le nom, F-E-N-R-I-R, on trouve aussi parfois Garm. Donc, il faut présenter Loki. Mais je vais le présenter avec un seul mot. Il est le trickster. Hein, il est ce dieu du panthéon nordique qui bouscule les choses, qui va les bousculer pour parfois les faire avancer, parfois les faire reculer. Enfin, il déstabilise toujours Loki. Loki, c'est un dieu extrêmement puissant, mais extrêmement dangereux. Et Loki, c'est le père des trois plus maléfiques créatures qui ont hanté l'univers nordique. L'univers mythique, bien sûr. Alors, donc, Loki, le trickster, a donné naissance à la déesse El, qui est la maîtresse des enfers. Il a donné naissance, alors je vais le présenter plutôt comme ça, donc, au grand serpent de Midgard, que j'ai noté ici, le grand serpent de Midgard, qui maintient un temps le monde en place dans les replis de son corps. On croirait l'hindouisme carrément. Bon, parce qu'il y a dans l'hindouisme cette même image du serpent qui maintient le monde en place dans les replis de son corps. Mais attention, ce serpent de Midgard provoquera la perte de l'univers le jour où il va se déplacer. On retrouve ça dans l'hindouisme en fait. Hein. Et la troisième naissance, le troisième monstre qui est issu de Loki, c'est le chien. Donc le chien Fenrir. Mais en fait, donc chien loup. Hein, donc il faut on peut le voir, donc là on fait le choix, soit je vous le présentez aujourd'hui, soit vous le présentez avec le chien, mais effectivement c'est le loup, parfois vous trouvez le loup et parfois vous trouvez le chien, Fenrir en en tout cas. Et c'est lui qui va détruire le monde au jugement des puissances. Le jugement des puissances, c'est le crépuscule des dieux. Il y a dans la mythologie nordique cette mythologie qui est extrêmement importante, le crépuscule des dieux, la fin des dieux, la fin du monde aussi, qu'on appelle le Ragnarok. Et que fait ce chien? C'est pour ça que je préfère quand même dire le loup. Le loup engloutit le soleil. La gueule du loup avale, et avale les astres. Et ça, vous le trouvez partout, ça, dans le domaine indo-européen. Snorri Sturluson, celui qui est l'auteur de l'Edda poétique scandinave au XIIIe siècle, raconte que pour assurer l'ordre du monde et la paix, les ases, c'est exactement comme les Olympiens. De même qu'il y a dans la mythologie grecque un combat qui oppose les Olympiens aux titans, il y a dans la mythologie scandinave un combat qui oppose les ases, qui sont les bons dieux, aux vannes, qui sont comme les titans, les mauvais dieux en fait. Et donc les ases ont entrepris de juguler le loup Fenrir justement, de façon à assurer l'ordre du monde. Snorri Sturluson, dans son Edda, raconte ceci, que pour y parvenir, après divers essais infructueux, les ases, donc les dieux, ont recours à des moyens magiques. Le monstre ne se laissera prendre qu'à la condition que Tyr, le plus grand des dieux, c'est le Jupiter, si vous voulez, des Scandinaves, accepte de mettre la dextre dans la gueule du loup, de Fenrir, ce que fait Tyr. Il le fait sans hésiter pour assurer l'ordre du monde, pour se débarrasser de ce loup, de ce chien Fenrir, qui incarne les forces du mal, qui est le symbole des puissances mauvaises. Donc Tyr s'exécute et Fenrir est réduit à l'impuissance. Donc les ases semblent avoir gagné, mais attention, vous avez bien compris, en même temps, le loup a eu le temps de trancher le bras droit du dieu. C'était effectivement finalement le contrat. Donc, si on voulait juguler le loup en question. Donc ainsi, effectivement, Tyr est parfois représenté sans son bras droit. Sans son œil aussi, parce qu'il a dû donner son œil pour avoir la voyance et d'autres détails comme cela. À ce propos, puisque l'on évoque effectivement ce Fenrir, loup, chien, qui avale les astres, qui va engloutir le soleil à la fin du monde, le Ragnarok, on a pu comparer très justement cette mythologie à celle d'Anubis. Anubis, remarquez-le, à tête de chien, à tête de chacal, on a presque envie de dire à tête de loup. Bon, c'est pas le loup, bien sûr, Anubis, mais enfin, ça se rapproche quand même beaucoup. Et Anubis peut jouer le rôle du dieu des enfers. Et donc, dans ce cas, on pourrait le comparer à Fenrir, pourquoi pas. Et là, il n'y a pas de rapport, puisque c'est un autre domaine, ce n'est pas le domaine indo-européen. De même que le jaguar en Amérique centrale. Dans le domaine précolombien, le jaguar, c'est exactement ce qu'est ce loup qui avale et qui avale les astres, qui est extrêmement terrifiant dans la mythologie précolombienne. Et de là, de Fenrir, on en arrive à une des images du diable. Le loup, inévitablement, et surtout dans l'esprit des chrétiens, est une image du diable. Donc c'est l'une des images du diable, effectivement. À côté du singe, à côté du serpent, le loup, c'est une image du diable. Et plusieurs bestiaires médiévaux, c'est dans les christianismes, le diable, il faut toujours le rappeler, c'est une invention chrétienne, médiévale. Donc dans les bestiaires médiévaux, on insiste sur ce caractère diabolique. Il y a des croyances populaires qui sont exploitées à cette fin. Le loup, selon les bestiaires italiens et français, par exemple, ne peut tourner la tête. Il ne peut tourner la tête, son cou est figé, ainsi le démon ne peut se tourner vers le bien ou le repentir. Il restera le mal, il restera le diable. Le loup, c'est pareil. Dans les bestiaires du Moyen-Âge, le loup ne peut pas tourner la tête, se diriger vers le bien ou le repentir. Là, c'est quelque chose qui est toujours intéressant parce que le christianisme a toujours combattu le manichéisme. Mais on le voit, c'est très difficile quand même de débarrasser du christianisme cette part manichéenne, le mal, c'est le mal et ne peut pas revenir vers le bien. Ça, c'est pas du tout la leçon quand même de saint Augustin, père et docteur de l'Église, pour qui l'ombre et la lumière se mêlent. Le bien et le mal se mêlent, comme l'ombre et la lumière. Là, par contre, c'est vraiment tranché. À partir du moment où on invente le diable, le diable, c'est le mal, un point c'est tout, et ça restera toujours le mal, contre un absolu du bien. Donc là, on bascule dans le manichéisme quand même. Bon. Selon Brunetto Latini, Pierre de Beauvais et d'autres, sont des grands auteurs du Moyen-Âge, il doit chasser loin de sa tanière. Ainsi, pour le bestiaire d'Oxford, le démon chasse ceux qui se sont éloignés de lui pour les ramener vers le mal. Ceux qui vont vers le bien, le diable, comme le loup, finalement, les chasse afin de les ramener vers le mal. Toujours dans le monde chrétien, le loup est l'une des formes prises par les sorciers, évidemment, à moins que le loup ne soit plus simplement la monture des sorciers qui se rendent justement au sabbat. Ça, c'est une variante espagnole. Et donc, du même coup, si les sorciers se transforment en loups, c'est un élément du mythe du garou, donc du lycanthrope, que j'ai exposé tout à l'heure, donc je n'y reviens pas. Ici, par contre, vous avez une représentation intéressante de Marc Osias, ça c'est dans la démonologie chrétienne. Vous avez en effet cette chimère cracheuse de feu avec corps de loup, des ailes de griffon, une queue de serpent, bon, qui ressemble beaucoup effectivement à la chimère antique qu'a terrassé Bellérophon. Et alors c'est intéressant parce qu'en effet, dans le christianisme, les êtres diaboliques tiennent toujours du taureau, du bouc, du singe, de l'ours, du léopard, du loup, bien sûr, du griffon, du dragon. Tout ça, c'est effectivement ce qui fait, ce qui forge l'image du diable ou des êtres diaboliques. Marc Osias, dans la démonologie chrétienne, c'est le puissant grand marquis de l'enfer. Il commande 30 légions de démons. Et ça, bon, c'est la démonologie. Alors ainsi, il est lié à l'enfer, forcément. Donc le loup a quelque chose à voir avec l'enfer. Si il est lié à l'enfer, il est lié aux morts. Et comme Anubis, le loup est un animal psychopompe. Psychopompe, ça veut dire qu'il est chargé de conduire les âmes des défunts dans l'au-delà, mais plus particulièrement, bien sûr, dans l'enfer. Alors, par exemple, il y a un chant funéraire roumain, je dis bien roumain, donc médiéval, qui conseille aux défunts de prendre le loup pour frère. Pourquoi ? Parce que le loup connaît l'ordre des forêts. Les forêts, c'est ce qu'il y a de plus sauvage. Et donc forcément, ici-bas sur Terre, c'est ce qui peut se rapprocher le plus de l'enfer. Bon, donc alors on conseille effectivement dans ce chant funéraire aux défunts de prendre le loup pour frère parce qu'il connaît l'ordre des forêts, tandis que la loutre, dans ce même chant funéraire roumain, connaît l'ordre des rivières. La rivière, c'est tous les fleuves qui conduisent dans l'au-delà, comme le Styx par exemple. Et il pourra tout aussi bien le conduire, ce défunt, dans l'enfer, mais le conduire aussi au paradis. Et donc ainsi on retrouve le loup qui a cette ambivalence finalement, côté donc nuit, côté lumière. Il peut acheminer le défunt en enfer, il peut l'acheminer au paradis. Et puis, tout ça, ça vient de l'Antiquité, bien sûr. Ce sont des choses qui n'ont pas disparu avec le christianisme. Mais remarquez, par exemple, que le maître des enfers, de l'Hadès, plus précisément. Donc, le maître de l'Hadès, c'est Hadès, ou Pluton. Bon, pour les Romains, c'est Pluton. Le maître des enfers était vêtu d'une peau de loup. On pourrait aussi le signaler à propos du dieu de la mort des Étrusques, qui, lui, de son côté, avait des oreilles de loup. Représenté comme cela. Parmi les légendes suscitées par cette espèce animale, il y en a certaines qui concerne la sexualité. Et ça, c'est un autre aspect du loup qu'il faut bien sûr évoquer maintenant, qu'on a un petit peu évoqué en parlant tout à l'heure de la loupa, de la prostituée, de la louve aussi, qui est un symbole de la maternité, et plus. Donc il y a quelque chose, effectivement, qui bascule avec le loup du côté de la féminité, de la sexualité. Bon. Alors, oui, donc vous avez une distinction à établir qui est quand même très nette entre la symbolique du loup que je viens de vous présenter et celle de la louve. Il y a une distinction quand même assez frappante. Hein. Autant le mâle est généralement un animal martial. C'est l'animal du dieu Mars, on l'a dit. Donc farouche, destructeur, voire carrément malfaisant parce que dévoreur d'êtres humains, de brebis. Bon, puis on a développé tout ça dans la première partie. Autant la femelle apparaît comme maternelle et protectrice, à l'origine de création, par exemple, hein, de fondation, commencé par Rome, bien sûr. Bon. Donc on va retrouver ici très fortement la nuit et le jour, cette ambivalence en fait, hein, qui est très très marquée. Mais là ici, qui prend donc une connotation sexuelle. Alors on peut commencer comme cela, la sexualité, donc c'est-à-dire l'observation zoologique. Alors bien sûr, on commence par l'observation zoologique d'Aristote. Alors je ne sais pas s'il est... donc les zoologistes aujourd'hui seraient d'accord avec ce qu'a dit Aristote, mais enfin, ce dernier remarque que les loups et les louves ne copulent que pendant une seule saison et une très courte période, alors donc 12 jours. Voilà. Donc c'est-à-dire que pendant une année, il n'y a que 12 jours sur l'année, donc dans une saison qui est bien déterminée, où les loups et les louves copulent. Bon. Les éthologues, a priori, nous disent 20 jours. Bon. Aristote nous dit 12 jours. Pline, après Aristote, dit aussi 12 jours. Et de là, on passe au mythe. Donc, de l'observation zoologique, 12 jours d'après Aristote et Pline, on passe au mythe. Alors, oui, chez les Grecs, il a fallu 12 jours pour ramener l'étau transformé en louve. Je l'expliquais tout à l'heure, mais on va en dire deux mots, on va raconter l'histoire de l'étau transformé en louve. Donc pour effectivement la ramener à Délos, cette l'étau qui avait été transformée en louve, il a fallu 12 jours. Donc vous voyez comment l'observation zoologique de l'Antiquité peut se combiner au mythe. Alors l'histoire est la suivante. L'étau est donc maîtresse de Zeus qui est l'époux d'Héra. Donc l'étau ne peut pas échapper à la vindicte d'Héra. L'étau est aussitôt transporté au pays des Hyperboréens, qui sera le pays d'Apollon, l'enfant de l'étau. Elle est transportée au pays des Hyperboréens en 12 jours. Et pour bien la dissimuler donc à Héra, elle est métamorphosée en louve. Et c'est comme ça qu'elle donne naissance à Apollon et Artémis. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, Apollon est parfois dit lycogénès, c'est-à-dire l'enfant de la louve, parce que c'est comme ça effectivement que l'étau lui a donné naissance à Apollon et Artémis. Alors maintenant, c'est bébé dans les bras. C'est bébé dans les bras. L'étau fait route vers le Xanthe. Sur le chemin, elle se désaltère à la source Mélitée, c'est-à-dire, comme par hasard, en pays lycien, là où se trouve le Lycée. Lycien. On a parlé de Apollon lycien ou lycéen. Donc, en effet, elle a ses enfants dans les bras. Elle fait route vers le Xanthe. Elle se désaltère à la source Mélitée en pays lycien. Là, des paysans surgissent et troublent l'eau par des piétinements, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'elle se désaltère à cette source, tout simplement parce que les paysans ont peur des rats, tout simplement. Et rats les a menacés. Bon. Et après avoir été chassé, l'étau est escorté jusqu'au Xanthe par des loups. justement. Elle baigne ses enfants dans le fleuve et le consacre à Apollon. Le pays reçoit le nom de Lycie. Lycie, c'est la racine, donc bien sûr, qui renvoie au loup. Et cela en souvenir des loups qui ont accompagné la déesse et l'ont escortée, protégée. Leto, là-dessus, revient auprès de la source Mélitée. Et elle va châtier les bouviers, les paysans qui ont refusé qu'elle se désaltère avec ses enfants. Elle va les transformer en grenouilles. Donc Leto qui transforme les paysans de Lycie en grenouilles. Vous connaissez cela à Versailles, par exemple. Vous avez un des plus beaux bassins de Versailles, qui est d'ailleurs gigantesque, qui montre cette métamorphose spectaculaire, d'ailleurs. C'est une fontaine en bronze doré à la feuille d'or. Et on voit la métamorphose des paysans lyciens qui deviennent des grenouilles. Et Leto, la grande déesse Leto qui est au milieu, qui les a métamorphosées en grenouilles. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, c'est pourquoi le fils de Leto, c'est-à-dire Apollon, est appelé par Homère, fils de louve, l'enfant de la louve. Là, ici, d'ailleurs, on voit très bien sur cette image c'est une très très vieille image, ça c'est très très vieux, ça fait partie donc de l'art géométrique des Grecs, donc ça remonte au 8e siècle avant notre ère. On y voit une image effectivement très archaïque de Leto, elle est ici au milieu. Donc son corps est très géométrique, sur son corps, il y a donc deux petites figures, c'est censé être Artémis et puis Apollon. Elle est censée transporter ses enfants, protégés par une horde de loups, gueule ouverte. Les loups sont de part et d'autre. C'est vraiment tout à fait remarquable. Voilà, alors là-dessus, on a un thème qui se dégage, c'est le thème de la louve mère, qui est associé à la fécondité, par exemple, et ça vous le trouverez partout, dans le domaine indo-européen, en Sibérie, en Anatolie, les femmes invoquent le loup pour avoir des enfants. Donc c'est associé à la fécondité, c'est pas sans raison qu'à Rome, il y a bien sûr les fils du dieu Mars, car en effet Rémus et Romulus sont les fils du dieu Mars. À Rome, ils sont recueillis, allaités, élevés par une louve, et ça c'est très très bien raconté, par Virgile dans son Énéide. Je vous renvoie au livre 1, tout simplement, de l'Énéide de Virgile, où il explique effectivement cette scène. Alors, malgré cette référence prestigieuse, le nom de la louve était quand même donné à Rome, aux prostituées, on l'a dit, donc lupa. Et donc le mot est resté dans ce sens en italien, lupa c'est la prostituée, ainsi que le dérivé de lupa. Lupanar. Voilà, le dérivé de lupa, c'est lupanar, effectivement. Ah oui, donc le lupanar, ça vient de lupa. Lupa, c'est la prostituée, c'est la louve, en italien. Bon. Ah oui, donc vous allez sortir de cette conférence, vous aurez appris quelque chose, c'est clair. Donc la sexualité des loups a beau être reconnue plutôt fugace, on a dit 12 jours, ou alors 20 d'après les éthologues, par an, c'est juste donc ces 12 jours ou 20 jours qu'ils copulent. Bon, la réputation luxurieuse l'emporte malgré tout, tant pour le mâle que pour la femelle, et ça s'est affirmé en Occident. De là, d'ailleurs, dans l'Antiquité, des rites fécondants. Alors, des rites qui sont aussi, c'est vrai, purificateurs, les Romains fêtaient le 15 février les Lupercales. Donc, c'est-à-dire une confrérie de luperques, donc des hommes sauvages, là aussi ce sont des hommes sauvages finalement, qui certes n'étaient pas déguisés en loups, ils étaient revêtus d'une peau de chèvre ou une peau de bouc, mais enfin ils faisaient les sauvages comme les loups, c'est pour ça qu'on les appelait luperques, ils fêtaient les lupercales 15 février, c'est d'ailleurs entre parenthèses quelque chose qui est à la racine de nos carnavals. Nos carnavals sont hérités des Lupercales des Romains, comme des Saturnales des Romains. Et donc, ils fêtaient Faunus Lupercus, Faunus c'est Pan, en fait, le grand dieu Pan, Faunus Lupercus, Et effectivement, c'est le Perque. Le 15 février, que faisait-il? Donc, au petit matin, il courait déguisé en sauvage, avec des peaux de chèvre ou de bouc. Il courait autour du Palatin. Donc la fête était obligatoire, hein. C'est une fête du calendrier liturgique des Romains le 15 février. Donc il courait autour du Palatin et avec des lanières en peau de chèvre, il fouettait les jeunes femmes. Et les jeunes femmes enceintes, parfois même les jeunes filles, enfin tous ceux qu'ils voyaient, tous ceux qu'ils attrapaient, étaient fouettés. Le rituel de la fustigation étant censé, bien sûr, apporter la fécondité. Très très vieux rituel aussi, la fustigation. Ah, ça c'est les Lupercales, hein. Ça je ne vais pas le développer, je ne vais pas refaire le cours qu'on a eu pas plus tard que cette semaine sur les Lupercales. Donc j'en viens à ma conclusion. Donc après tout cet imaginaire qu'on a développé, qu'est-ce que l'on peut dire en conclusion? Dans les temps modernes, c'est-à-dire finalement encore aujourd'hui, les bandes de loups affamés continuent à faire trembler les populations rurales d'Europe occidentale. Donc c'est vrai, c'était très vrai jusqu'au 19e siècle, mais c'est toujours un peu vrai aujourd'hui, dès lors qu'on a réintroduit des loups en montagne, surtout en montagne. Alors effectivement, il semble que c'est injustifié, cette peur du loup, voire même, d'après les spécialistes, totalement injustifié. En tout cas, effectivement, il y a dans notre imaginaire cette peur du loup, et elle est très très bien traduite dans Robinson Crusoe. Et dans Robinson Crusoe, il s'agit des Pyrénées. C'est vrai aussi pour des zones isolées, mais là on va citer donc la première partie du Robinson Crusoe de Daniel Defoe, et voici le texte qui est quand même assez édifiant, parce que ça nous situe quand même dans une période donc moderne, contemporaine. Donc voici ce qu'il écrit: « Nous n'avions pas encore traversé la moitié de la plaine, quand dans les bois, à notre gauche, nous commençâmes à entendre les loups hurler d'une manière effroyable. Et aussitôt après nous, en vîmes environ une centaine venir droit à nous. Nous en avions en tout expédié une soixantaine, et si c'eût été en plein jour, nous en aurions tué bien davantage. Le champ de bataille étant ainsi balayé, nous nous remîmes en route, car nous avions encore près d'une lieue à faire. Plusieurs fois, chemin faisant, nous entendîmes ces bêtes dévorantes hurler et crier dans les bois, et plusieurs fois, nous imaginâmes en voir quelques-unes. Mais nos yeux étant éblouis par la neige, nous n'en étions pas certains. Une heure après, nous arrivâmes à l'endroit où nous devions loger. Nous y trouvâmes la population glacée d'effroi et sous les armes, car la nuit d'auparavant, les loups et quelques ours s'étaient jetés dans le village et y avaient porté l'épouvante. » Alors, le texte est moderne, et vous avez ici finalement le résumé de tout ce qu'on a dit sur le plan de l'imaginaire. Hein, c'est quand même tout à fait étonnant. On a même l'allusion aux yeux, la nuit, hein, l'épouvante que peut provoquer le loup, quand même tout à fait incroyable. Et dès la seconde moitié du 19e siècle, les hordes de loups, les loups solitaires aussi, il faut bien le reconnaître, avaient à peu près disparu de l'Europe occidentale. Donc quand on a ce Robinson Crusoe, c'est complètement l'imaginaire qui l'a emporté. C'est pas la réalité, puisqu'effectivement, dans la seconde moitié du XIXe siècle, les hordes de loups et de loups solitaires avaient à peu près disparu de l'Europe occidentale. Et pourtant, on a ce texte qui est effroyable à l'égard du loup, et qui n'est pas vrai, qui ne s'inscrit que dans l'imaginaire. Alors, on le voit, l'impact des légendes et des symboles anciens, très anciens à propos du loup, ça reste fort, très très fort, si bien que le loup demeure présent dans notre imaginaire à l'heure actuelle. C'est l'animal des contes, c'est l'animal des dessins animés. Alors c'est vrai que l'image du grand méchant loup, le croque-mitaine, n'est plus entretenue que par le dessin animé, entre autres Walt Disney, mais pas seulement. Et remarquez toutefois que Aujourd'hui, dans cet imaginaire qui est lié au dessin animé, au conte au dessin animé, ben finalement, le loup est toujours finalement assez ambivalent. Il se situe toujours entre cruauté, donc ça c'est côté Walt Disney et c'est côté Croquemitaine, le grand méchant loup, et érotisme. Érotisme fou, donc ce qui rejoint la sexualité, l'animal qui est luxurieux, alors que, bon, ben non dans la réalité, mais voyez ce que Tex Avery en a fait de ce loup. Voilà, donc entre cruauté et érotisme fou. Ça n'a pas disparu, ouais, cet aspect effectivement du loup qui se relie à la sexualité, qui se relie à la fécondité, qui se relie à cet aspect-là. Tout à fait étonnant quand même. Voilà, voilà ce que j'avais à dire à propos du loup et de la louve. Donc voilà, bien sûr, c'est très riche, hein, c'est très très riche, hein, donc ça n'est qu'un aperçu, mais vous avez une très très belle bibliographie qui est disponible donc en sortant de la salle pour en savoir plus, et je vous conseille en particulier le livre de Pastoureau que vous pouvez emprunter, qui est disponible. Vous précipitez pas tout ça, parce qu'il n'y a qu'un seul exemplaire hein, de Pastoureau qui est disponible. Enfin bon, donc il est à votre disposition. Donc la prochaine fois, bah, nous verrons un sujet qui est très semblable, qui est dans la continuité. Bien sûr, c'est le chien. Le chien vient du loup, hein, donc ça c'est une réalité éthologique. Bon, mais on le présentera comme étant l'animal psychopompe et surtout le paria des religions. Donc on le verra très bientôt. C'est la prochaine conférence de février. J'ai plus la date en tête, mais enfin, c'est la prochaine conférence de février. Donc là aussi, on aurait pu développer avec l'ours. Il y a beaucoup de parallèles à faire entre le loup et l'ours. Enfin bon, ça je le garde pour un autre cycle. En tout cas, merci beaucoup de votre attention pour cette conférence.